Bonsoir tout le monde. On avait laissé Sartre aux prises avec une question redoutable, qui était la question de savoir si on pouvait comprendre une société tout entière dans son développement historique, alors même qu'elle était traversée par un antagonisme de classe, ou est-ce qu'on pouvait dépasser dialectiquement cet antagonisme de classe. Et jusqu'ici, tout ce qu'il a pu montrer, c'était que si on prenait n'importe quelle lutte à l'intérieur d'une société antagoniste, cette lutte pouvait incarner l'ensemble de tous les éléments antagonistes de la société. Donc on avait vu comment l'exemple du match de boxe pouvait servir à renvoyer en fait à toutes les contradictions, à tous les éléments qui faisaient de cette société une société déchirée. Donc il y avait là une incarnation où, comme il le disait, on peut aussi bien dire que c'est un enveloppement, une totalisation d'enveloppement, parce que les protagonistes de ce combat particulier, en fait, par leur action, enveloppent tout ce qui fait leur société, enveloppent donc toutes les conditions historiques qui les ont menés à faire ce combat-là, ce jour-là. Donc on peut dire que c'est une totalisation d'enveloppement. Donc on a déjà trouvé le genre de choses qu'on cherche, mais maintenant on a besoin de l'appliquer à une société tout entière. Et pour pouvoir se demander notamment si les grands ensembles historiques qui se sont constitués progressivement, comme les nations par exemple, ou les entités même supranationales, est-ce que ces grands ensembles peuvent être dus à une sorte de totalisation d'enveloppement? Ou bien est-ce qu'ils sont simplement dus à des contingences, des événements fortuits qui font qu'on a tracé des frontières là et du coup les gens se sont trouvés réunis de manière assez artificielle en fin de compte, simplement par des frontières. Donc c'est sa question. Et pour explorer plus loin sa question, dans ce qui va être la fin de son ouvrage, on va arriver jusqu'à la fin, il va prendre deux étapes. La première, c'est voir si on peut avoir une totalisation d'enveloppement dans un groupe restreint qui a une praxis avec un objectif commun, praxis commune vers un objectif commun. Il va étudier un conflit qui surgit dans un groupe de ce type-là. Donc, pour voir sur un exemple plus restreint, comment on peut dépasser un conflit. Et puis, il va appliquer ça à la société soviétique du début de la Révolution, parce que c'est une société où il y a aussi un projet commun à un certain moment, et donc on peut voir néanmoins beaucoup de déchirures et d'antagonisme, et donc comment là il y a eu dépassement, comment il y a eu en effet dépassement des antagonismes. Bon, alors il arrivera difficilement jusqu'à la société antagoniste qui est la nôtre, donc industrielle capitaliste, mais il y aura quand même certaines indications, vous verrez. Alors d'abord, dans le groupe qu'il appelle le groupe assermenté, donc un groupe qui est soudé par son objectif commun, qui sait distribuer les tâches, où chacun est sûr des autres, où on est dans vraiment une co-souveraineté, comme on l'avait vu. Pourquoi peut surgir un conflit? Ça peut être à toutes sortes d'occasions, mais en général, c'est parce qu'il y a une inadéquation qui s'installe entre la structure du groupe, entre la manière dont le groupe justement a distribué ses tâches ou défini ses fonctions, et l'extérieur sur lequel il essaye d'agir. Donc si cet extérieur change pour une raison ou d'une autre et que le groupe perçoit mal le changement ou ne le perçoit pas ou n'arrive pas à s'y adapter, il va avoir une praxis désormais inadaptée à cet extérieur. Et ça peut faire surgir un conflit, parce que Sartre ne veut considérer ici que les conflits qui sont vraiment en lien avec l'objectif. Donc c'est des conflits qui portent sur l'objectif, où donc une partie du groupe se dit nos moyens, ils devraient maintenant, pour être efficaces par rapport à l'objectif, nos moyens devraient être ceci, voilà ce qu'on devrait faire. Et une autre partie du groupe pense que non, c'est pas ça qu'il faudrait faire, mais autre chose, et le conflit porte sur ce genre de choses. Alors il dit tout de suite, l'explication des conflits, très souvent, disons chez les historiens non marxistes, elle est psychologisante. C'est-à-dire on passe par les émotions des personnes, ou les désirs des personnes, et on dit, il y a conflit parce qu'un tel voulait prendre la direction du groupe, un tel était très narcissique, un tel était très autoritaire, et on explique de cette manière en fait les conflits et leurs difficultés de résolution. Sartre dit, en fait, ça manque l'essentiel. C'est, peut-être que ça existe, ce genre d'ingrédient, mais ça manque vraiment l'essentiel. Parce qu'il faut tenir compte du fait que Là, on examine des groupes ou des sociétés révolutionnaires où chacun détermine sa propre praxis par celle du groupe, par l'objectif commun. Donc on le prend comme vraiment sincèrement dévoué à l'objectif commun et non pas à ses propres plaisirs et désirs, mais vraiment comme dévoué. Donc on considère ce conflit vraiment comme portant sur, on n'a pas la même évaluation de ce qu'il faut faire. Donc comment on peut dépasser le conflit? Alors il peut s'installer une médiation, hein, on peut décider de médiateurs qui vont essayer de trouver un compromis, une manière commune, ou de convaincre l'un ou l'autre de la position de l'autre. Bon, ça, c'est une possibilité. Bon, mais quoi qu'il en soit, qu'on le fasse ou pas, il y a quand même trois issues possibles. Ou bien on trouve une réunification. On arrive à réunifier autour d'une redéfinition ou du projet, ou des fonctions et des tâches à réaliser, ou des stratégies, etc. Donc ça, c'est, on peut dire, évidemment, la meilleure possibilité, parce que là, on a vraiment le dépassement dialectique. Là, le conflit a été moteur. C'est ce qui doit être pour que ce soit dialectique. Il faut que le conflit pousse vers quelque chose de mieux, hein, vers un dépassement, vers une meilleure efficacité. Donc, c'est ce qui a lieu à ce moment-là. On réunifie, mais pas de la même façon qu'on était unifié avant. On réunifie en mieux. Donc, on a vraiment dépassé, puisqu'on a intégré les nouveaux besoins en fonction de la situation qui a changé. Donc c'est vraiment, là, c'est la résolution dialectique. Les deux autres issues possibles, c'est ou bien l'exclusion d'une partie du groupe, ou bien le schisme, c'est-à-dire vraiment le groupe se transforme en deux groupes qui poursuivent chacun leur propre manière de faire. Alors, on a l'impression que s'il y a exclusion, ben, il n'y a pas de dépassement dialectique, puisque le groupe s'est juste amputé d'une partie, on ne voit pas où est le dépassement. Mais Sartre dit, ça peut être quand même un dépassement si le reste du groupe, celui qui reste, intègre les fonctions qui étaient celles des exclus, intègre ces fonctions et les réadapte et les réalise d'une manière plus efficace, hein, ayant vu effectivement ce qui manquait dans leur accomplissement avant. Donc ça peut être néanmoins dialectique, même si c'est sous la forme d'une exclusion ou d'une division du groupe. Donc voilà comment ce premier laboratoire, hein, laboratoire assez facile dans un petit groupe, et les exemples historiques que Sartre donne, c'est l'opposition entre les montagnards et les girondins, hein, c'est son focus sur les années de révolution qu'il aime bien, et puis c'est déjà Trotsky et Staline, dont il suppose que dans les premières années, dans les premières années après la mort de Lénine au moment de leur affrontement, il suppose que tous les deux étaient vraiment dévoués à la cause de la révolution, ce qui reste à prouver, mais en tout cas c'est sa supposition quand il décrit cet antagonisme. Alors si on veut passer maintenant à l'application de ce type de compréhension à toute une société, Il indique d'abord toutes les difficultés qui sont communes à toutes les formes de société. Le fait que déjà il n'y a pas du tout d'unité au départ, puisqu'on a vu que toute société, elle était d'abord un collectif sériel, et qu'il faut dépasser cette impuissance de sérialité déjà à l'intérieur d'une des classes et ensuite à l'intérieur de la société tout entière, pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir un but commun. Donc il faudrait d'abord passer l'étape de se donner un but commun et une praxis commune. Donc déjà, l'unification, elle n'est que à venir, elle n'est que visée, et si elle n'est même pas visée à l'intérieur de la société, comment aller au-delà? Donc c'est la principale difficulté. Et Arlette El-Kaïm, qui est l'éditrice de ce deuxième tome de la critique, elle suggère une piste qui est que la société capitaliste, en fait, est unifiée par la matière ouvrée. Ça, Sartre nous l'a dit déjà. Il a dit que ce qui faisait la médiation entre les praxis des uns et des autres, c'est cette matière ouvrée, autrement dit, c'est tout l'environnement transformé par nous, pour nous, hein, en fonction de nos besoins. Et effectivement, nous sommes tous unifiés par cela. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, collaborateurs et bénéficiaires de cet aménagement commun. Le problème, évidemment, c'est que les objectifs que nous avons à partir de cette matière commune ne sont pas du tout les mêmes. Et que c'est justement ces objectifs-là qui sont antagonistes. Alors comment, c'est même aussi cette matière-là qui crée l'antagonisme, puisque c'est elle qui crée ces relations donc d'exploiteur à exploité, de possédant à posséder, etc. Alors on pourrait suggérer comment dépasser ce double but autour de la même matière ouvrée. Justement, la pensée marxiste du XIXe siècle, elle suggère justement une unification en disant que la classe ouvrière, la classe des travailleurs, doit s'emparer de l'outil de production dans sa totalité et de ce fait faire disparaître la classe des possédants. Puisque hein, si c'est la classe laborieuse qui s'empare de ses moyens, il n'y a plus de classe possédante, ou du moins la classe possédante, elle devient tout le monde. Donc on aura absorbé l'ensemble de la société dans un seul et même groupe qui sera désormais la classe en rapport avec la matière ouvrée. Donc la pensée marxiste, son objectif, sa manière de voir une avancée, un changement de société, c'est bien celui-là. C'est bien un dépassement à partir de la matière ouvrée, à partir de tout l'appareil de production et produit. Peut-être que Sartre, à son époque, pouvait encore voir ça comme une possibilité. Maintenant, si on veut actualiser sa pensée et se dire, bon, qu'est-ce qu'il en serait à l'époque actuelle ? Le problème, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que le but même de ceux qui ne sont plus des tenants du système, qui ne sont plus des bénéficiaires du système, leur but même n'est plus de s'emparer de l'appareil tel qu'il est, de la matière ouvrée telle qu'elle est, parce qu'on se rend compte de plus en plus que telle qu'elle est, elle est en train de s'autodétruire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est en train, par cet appareil à la fois économique et technique, de détruire la société elle-même, de détruire même au-delà de la société la vie éventuellement la possibilité de vivre sur Terre. Et ça, c'est inhérent au système, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a ce type de techniques qui sont extrêmement destructrices, polluantes, envahissantes, qui vont s'épuiser, qui vont épuiser ce qui est nécessaire à la vie. Et c'est dû entièrement au principe même de ce système économique, hein, comme on l'a déjà dit amplement. Donc là déjà, on a de nouveau l'impression que le dépassement n'est pas possible, ou que s'il y avait un dépassement, ça serait que tout le monde se rende à cette idée que le seul moyen de dépasser le problème actuel qui n'est plus simplement l'antagonisme de classe, mais qui devient aussi tout le retour du pratico-inerte sur nous, c'est un retour de pratico-inerte, hein, c'est cet énorme problème écologique qu'on est en train d'affronter, c'est un retour du pratico-inerte contre nous. C'est notre praxis sur la matière qui nous revient comme une contre-finalité, hein, qui nous empêche maintenant de continuer à vivre de la même façon, à continuer cette répétition. Donc c'est ça qu'on doit dépasser. Alors comment ? Ben, c'est la question ouverte, hein. C'est justement la question ouverte maintenant. C'est-à-dire que le fait qu'une minorité de personnes ait précisé la nouvelle praxis qu'il faudrait faire, ça existe effectivement, il y a une minorité de personnes qui savent qu'il faudrait sortir tout à fait et créer autre chose. Comment ça peut, par quelle médiation ça pourrait s'étendre et réaliser effectivement ce dépassement ? Ben, ça, on ne sait pas, on ne sait toujours pas. Donc ça, c'est une question que je pose qui a une certaine déjà actualisation, hein, par rapport à Sartre, qui n'était pas encore à ce stade, en fait, à cette époque. Bon, donc, lui, ses considérations, elles sont un petit peu différentes. Il dit simplement que lorsque même on n'est pas arrivé à résoudre un conflit, lorsqu'on reste dans un antagonisme, ou qui s'est réalisé simplement par une antidialectique, comme il dit, c'est-à-dire juste l'exclusion d'une des parts de l'antagonisme, le problème que lui dit, c'est simplement, néanmoins, même quand ce n'est pas dialectique, le conflit peut faire apparaître un nouveau pratico-inerte, un nouveau par rapport auquel on pourra changer de sens pratique. Et cette introduction du sens est importante. Il dit, Le sens pratique, c'est le sens qu'on donne à son action par rapport à ce qu'elle était avant. Donc changer son sens pratique, c'est comprendre le sens de ce qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire comprendre le rapport d'adéquation de son action passée et la manière dont on doit le changer pour l'adapter à une forme nouvelle. Donc même indépendamment d'un conflit, vous voyez, il y a besoin de ce sens pratique, c'est toujours le sens rétrospectif qu'on donne à son passé, donc l'interprétation qu'on a de comment on en est arrivé à où nous sommes maintenant, comprendre comment on en est arrivé à l'endroit où nous sommes maintenant, c'est dû à quoi dans notre action, pour pouvoir donner un nouveau sens à notre action et dire donc, avec quoi il faut rompre et en quoi il faut modifier notre action. Donc ça, ce serait aussi un dépassement possible, si vous voulez, sans résoudre le conflit. Hein, c'est pour reprendre le problème écologique que je disais, si on pouvait changer de sens pratique, c'est-à-dire comprendre le sens de la situation en rapport avec ce que l'ensemble du système a fait jusqu'ici, et changer ce sens pratique, bon, ce serait une issue possible. Et alors, oui, donc ça, c'est, on pourrait dire aussi que dans la société actuelle, le problème est que, au lieu de changer de sens pratique, le capitalisme, pour se maintenir, s'adapte plutôt, chaque fois, partiellement à tous les obstacles, que ce soit des obstacles qui lui viennent d'une partie de la société, d'une partie des membres qui ne sont pas bénéficiaires, ou si ça lui vient de contre-finalités matérielles. De toute façon, ce qu'il fait, c'est jamais chercher à mettre en question ses fondements, mais c'est toujours chercher à puiser dans les mêmes fondements pour continuer à aller plus loin et essayer de résoudre donc le problème par ce qui était déjà le facteur de problème. Donc c'est ça en fait qui fait que toutes les issues semblent fermées. Bon, donc Sartre, en fait, il épilogue pas beaucoup là, il développe pas beaucoup ce problème-là. Il passe directement à l'examen de la société qui s'est donnée à un certain moment un but commun, donc une société révolutionnaire. Et donc à propos de la société soviétique, il dit bon, comment est-ce qu'on peut décrire un mouvement dialectique en trois temps ? En trois temps, premier temps, c'est donc la révolution qui est un objectif à atteindre. Donc on est bien dans l'idée qu'on n'a pas au départ une unification totale de cette société. Elle n'est pas du tout homogène, hein, loin de là, la société russe à l'époque. Mais il y a bien un objectif unique qui est réussir cette révolution, c'est-à-dire abolir les inégalités sociales, abolir l'exploitation, faire que tout le monde vive une vie digne. Bon, c'était ça l'objectif. Alors, dans un deuxième temps, donc ça réunit, on peut dire que sous cet objectif, si on le prend de manière très, très abstraite, enfin très, très générale, on peut dire qu'on réunit évidemment presque tout le monde dans cette société, pas tout le monde, puisque évidemment il y en a qui vont être dépouillés du système précédent qui les avantageait. Et justement, le fait qu'il y ait des gens qui n'ont pas envie de ce changement, ça fera partie du deuxième temps, qui est le temps des contre-finalités, le temps de l'empêchement, des empêchements de toutes sortes. Alors, contre-finalités parce qu'il y a des contre-révolutionnaires, bien sûr, parce que matériellement, c'est très difficile d'installer le nouveau système économique, et dans un premier temps, c'est une faillite totale, ce nouveau système économique. Donc au moment où on a commencé immédiatement à collectiviser, c'est-à-dire à étatiser en fait le principal des moyens de production, comme c'est une société agraire, ben, le principal ce sont les terres, eh bien après, dès ce moment-là, très très rapidement, on a été confronté à une gigantesque famine parce que il y avait très peu de motivation pour la production par les producteurs eux-mêmes, parce qu'il y avait une réquisition systématique de toute la production pour être distribuée là où le souverain, hein, très très limité, estimait que c'était le prioritaire. Donc il y a eu vraiment beaucoup de contre-finalités au départ. Et Sartre inclut dans ces contre-finalités, donc dans ce deuxième temps du négatif, hein, il inclut aussi la bureaucratisation de ce premier groupe révolutionnaire. Bureaucratisation, donc dans la signification qu'on avait vue précédemment, c'est-à-dire qu'on a désormais une pyramide avec un sommet très très étroit qui a monopolisé toute la praxis et tout le reste qui n'est plus que courroie de transmission ou soumis aux décisions de ce sommet. Donc on a bureaucratisé et c'est vraiment une contre-finalité par rapport à l'objectif. Ce n'était pas du tout ça l'objectif révolutionnaire, pas du tout. Donc ce deuxième temps est vraiment un échec. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans un troisième temps? Le troisième temps, c'est qu'il y a eu une réhomogénéisation de cette société et donc un dépassement de l'antagonisme qui était né des contre-finalités. Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce que Sartre expose. Hein. J'ai un léger doute, mais bon, il faut voir. Enfin, parce que lui pense que le principal antagonisme qui a été créé, c'est qu'on avait d'un côté le souverain et les ouvriers, parce que, puisque l'idée du souverain, c'était de développer absolument l'industrie, donc c'était, développer à marche forcée tout l'appareil industriel, donc il favorisait systématiquement plutôt les ouvriers d'industrie, hein. Et donc, Sartre les met du même côté. Et puis, de l'autre côté, les paysans, qui étaient contre-révolutionnaires, hein, dans ce mouvement, dans ce moment. Et cet antagonisme, comment il a été résolu ? Par la terreur, hein. Par la terreur, par l'extermination, par la création de... un seul homme homogène, l'homme soviétique homogène, c'est-à-dire l'homme totalement soumis, totalement dévoué, qui travaille comme une bête, qui ne demande rien et qui en fait a remplacé ses propres aspirations par les aspirations du souverain, hein, de ce souverain désormais incarné dans une seule personne, etc. Donc, oui, on peut dire que il y a eu réunification, il y a eu dépassement des antagonismes. On a retrouvé l'unité qu'on avait perdue, enfin une nouvelle unité qui n'était pas celle de départ, mais à quel prix, évidemment. Et ça, Sartre ne le nie pas. Hein. Donc la question n'est pas ici de justifier, de dire, vous voyez, c'est très bien, ça s'est bien passé. Pas du tout. C'est simplement pour montrer qu'un mouvement dialectique, on peut toujours le comprendre, hein, on peut toujours le comprendre, l'expliquer à partir de ces conflits et de ces dépassements de conflits, à partir des tentatives de répondre à nouveau par une nouvelle praxis aux contre-finalités. Donc c'est ça qu'il veut mettre en évidence, c'est l'intelligibilité de ce qui s'est passé. C'est pas du tout dire si c'est bien ou mal ce qui s'est passé. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, et c'est pas nécessaire pour montrer que c'est compréhensible. Hein. L'important c'est ça, c'est que ce soit compréhensible. Donc là, il est arrivé à montrer la compréhensibilité de cette société-là. Plutôt que de passer à nouveau à notre société et à avancer, il tire juste d'abord quelques... remarque générale, donc sur ce qu'on peut déjà dire à ce niveau-là de la totalisation d'enveloppement. Trois remarques. Premièrement, la totalisation d'enveloppement, elle est de part en part humaine. C'est une compréhension de part en part humaine. Parce que tout peut être ramené à une intériorisation par les individus. Et tout peut être ramené au fait que les mouvements individuels et de groupe passent toujours par une intentionnalité et donc par une visée de ce qui sera dans l'avenir. Donc, dès le moment où on peut intégrer les désirs des individus et des groupes par rapport à leur visée future, et comprendre donc comment ils se temporalisent, hein, cette idée de temporalisation, il va la chercher dans sa philosophie, hein, Sartre, c'est toujours l'idée que se temporaliser, ça veut dire commencer par poser son futur, et puis aller chercher dans son passé ce qui peut servir à sa visée future, et donc réinterpréter le passé en fonction du présent qui nous avancera vers notre objectif. Donc, on peut toujours comprendre tout processus de cette manière-là, même quand il est très inertiel, vous voyez, même quand c'est un processus qui a l'air d'échapper aux humains, même quand il a l'air d'être vraiment contre-productif, on peut toujours le comprendre comme ça. Alors, sa deuxième remarque, c'est que Les déviations, elles sont compréhensibles. En fait, on pourrait les éviter. Il dit que ce sont des déviations en spirale, au lieu de dire simplement circulaire. Jusqu'ici, on parlait beaucoup de circularité, c'est-à-dire des choses qu'on a essayé de faire et qui nous reviennent dans un mauvais sens. On peut dire que c'est quelque chose, c'est une circularité qui nous renvoie en fait au point de départ. Je reprends cet exemple du début de la Révolution russe. La première manière qu'on a pensée pour résoudre la famine, c'était encore du temps de Lénine, c'était de dire on va lâcher un peu de lest, on va aller moins vite dans l'avancée révolutionnaire, c'est-à-dire il a proposé la nouvelle politique économique, donc qui rendait une partie de la terre aux paysans et qui leur permettait de la commercialiser eux-mêmes, donc en remettant une certaine économie de marché dans cette économie étatisée. Et ça a très bien marché, ça a super bien marché. En fait, en quelques années, on a dépassé effectivement le problème de manque de production agricole, il y a eu vraiment un développement. Enfin, ça a bien marché, sauf que, la contre-finalité, c'était quoi? C'est que du coup, on avait perdu le principe de révolutionnaire en même temps. Parce que si on se disait, ce qui marche bien, c'est l'économie de marché et c'est laisser les paysans produire pour eux-mêmes et pour leur propre profit, bon, on a perdu tout l'objectif révolutionnaire. Ce n'était pas du tout ça qu'on avait au départ. Donc, on a l'impression de quelque chose de circulaire qui est, on revient à notre point de départ. Si on résout le problème de la famine, on revient avant l'objectif révolutionnaire. Bon, mais pourquoi il dit que c'est plutôt en spirale? C'est parce qu'il dit, en fait, le temps, il n'est jamais circulaire. On ne revient jamais au point de départ exactement. On revient à quelque chose de similaire, mais avec un changement quand même. Entre-temps, l'appareil productif a changé, d'autres choses se sont modifiées. On a quand même commencé à industrialiser, on a modifié la structure du pouvoir, on a essayé de modifier un peu les façons des personnes de se situer. Donc, en fait, on a changé beaucoup de choses. Et c'est ça, la spirale, c'est que il y a quand même un axe temporel qui demeure, hein. Il y a un axe temporel autour duquel ce qui tourne, ben, il tourne en arrivant un peu plus loin. Hein. C'est ça, il tourne, mais il arrive un peu plus loin. Et c'est une meilleure illustration, en fait. Enfin, en tout cas, malgré tout, il propose qu'on évite ce problème de revenir à des points de départ non souhaités. Et il propose par deux manières. Ben, la première, c'est justement d'avoir une société plus homogène. Autrement dit, bon, puisque le point de départ, c'est qu'elles ne le sont pas, on devrait peut-être, avant de faire une rupture radicale, homogénéiser plus progressivement. Peut-être que ce serait moins contre-productif, enfin, ça risque moins un retour de balancier si on ne fait la rupture qu'après avoir une évolution suffisante qui fasse qu'il y ait évidemment une plus grande adhésion aux objectifs. Et donc, que ce soit un petit peu plus facile, qu'on ne soit pas obligé de passer par cette terreur, hein, puisque c'était ça le problème. Et la deuxième manière qu'il propose, c'est qu'il y ait une plus grande avancée technique. Alors, ça se comprend, si vous voulez, ça se comprend, puisqu'il examine le début du XXe siècle en Russie, qui était très, très peu développé techniquement. Donc là, on pourrait dire, bon, s'il y avait eu déjà cet appareil de production plus industriel, plus développé, il n'aurait pas fallu le faire à marche forcée. Donc, ok, dans cette circonstance, on comprend. Si maintenant, on essaye de prendre ça à l'heure actuelle, de nouveau, et c'est évident qu'il ne faut pas davantage de technique. Hein. Enfin, en tout cas, pas sous cette forme industrielle qui existe maintenant, avec ces moyens énergétiques, etc., dont on sait qu'ils sont tout à fait contre-productifs maintenant. Voilà, donc ça c'était sa deuxième remarque générale. Et la troisième, c'était que la déviation de l'intention, elle est compréhensible non seulement dans la praxis constituée, donc c'est celle qu'il a décrite, hein, à constituer, ça veut dire à l'échelle d'une société ou d'un groupe important, mais elle est compréhensible aussi dans la praxis constituante, qui est celle des individus. Donc, j'en profite pour rappeler, hein, ce rapport de constitution, puisque c'est toujours les individus qui, par leurs actions, constituent les mouvements d'ampleur, les mouvements de plus grande ampleur. Et donc, dans la praxis constituante, il donne deux exemples de déviation des intentions de quelqu'un. Un exemple qui est très drôle, si on imagine Sartre, c'est si on se donne une trop grande ambition dans son travail, hein, si on se dit qu'on veut arriver à un point qui est beaucoup trop ambitieux par rapport à ses capacités, eh bien, en fait, on va avoir un résultat qui est bien pire que si on s'était donné un objectif moins ambitieux. Donc, ce qu'on va obtenir, ce ne sera même pas ce qu'on aurait obtenu avec un peu moins d'ambition. Parce que la fatigue sera telle qu'on fera que du mauvais. Donc ça, c'est par rapport à l'intention vraiment triviale hein, d'un individu pour un travail. Et son autre exemple, c'est beaucoup plus général, c'est que tout ce qu'on a l'intention de montrer aux autres par simplement notre extérieur, donc nos expressions, nos manières de nous tenir, de nous habiller, de nous comporter avec les autres, tout ce qui manifeste en fait nos états intérieurs vers l'extérieur. Bon, il y en a qui sont intentionnels, il y en a auxquels on ne pense même pas ou qu'on ne soupçonne même pas, mais disons, ceux qu'on connaît, hein, les signes dont on sait qu'on les exprime, en fait, ils peuvent être compris tout à fait autrement par les autres personnes. Donc la signification que nous, on donne à ces signes extérieurs peut être complètement déviée, en fait, chez les récepteurs de ces signes. Et ça, ils l'appellent même une anti-signification. Oui, on peut être victime d'une anti-signification. Et donc, vraiment, là, il y a de nouveau une question de sens, le sens que nous, nous donnons à ce que nous faisons et à l'extériorisation dont on peut se rendre compte. Le sens de notre action est complètement dévié, hein, est complètement perdu pour nous. Et on doit essayer de le rattraper, le corriger. Donc, il y a là aussi une nécessité de dépassement de ce qui nous a échappé, hein, de retrouver en dépassant ce qui nous a échappé. Et cette notion de sens, ben comme il l'a introduite, il va continuer là-dessus et va s'interroger sur le sens de l'histoire. Donc en ouvrant de nouveau le champ. Le sens de l'histoire, comment il le définit? Bien, en fait, il considère que c'est ce que rétrospectivement on peut comprendre d'une histoire. Seulement rétrospectivement on peut comprendre de ce qui s'est passé. Il dit qu'on atteint le sens de l'histoire, qu'on soit un historien professionnel ou pas, hein, mais en tout cas, on est un observateur situé dans l'histoire. Et pour comprendre, à partir de cette situation, le sens de ce qui est venu arriver jusque-là, il faut réactualiser les actions, donc les totalisations qu'ont effectuées les autres acteurs dans cette histoire. Il faut en quelque sorte se remettre à leur place, se remettre dans leur situation et comprendre comment, là où ils étaient, eux, à partir de là où nous sommes, nous, hein, comprendre là où ils étaient, eux, comment ils pouvaient totaliser l'ensemble des facteurs qu'ils constataient et qu'ils essayaient de dépasser. Et c'est donc par cette méthode progressive-régressive, hein, je vous rappelle que c'était ça qu'on avait vu tout au début, par cette méthode, donc on peut reconstituer le sens que eux mettaient dans leur action et le comparer avec le résultat que ça a donné. Et en fait, le sens de l'histoire, c'est la généralité de tout ça. C'est à la fois le sens qu'y ont mis les agents et ce qui en a résulté après, et qui, avec un certain écart entre les deux, puisque on a vu, hein, c'est jamais le résultat n'est jamais exactement ce que l'intention avait projeté. Donc c'est ça le sens de l'histoire, c'est vraiment ce qu'on peut comprendre rétrospectivement, ouais, encore une fois, grâce à une bonne méthode. Et ça veut dire qu'il y a une relativité de la connaissance à l'être, mais pas du connu à l'être. Pourquoi il utilise cette formule? Il y a une relativité de la connaissance à l'être, parce que l'historien est situé. Où l'observateur est situé. C'est-à-dire que lui, il est relatif aux conditions réelles dans lesquelles il travaille ou à partir desquelles il observe. Donc lui, il a une dépendance par rapport aux conditions réelles, donc c'est ça qu'il appelle l'être, hein, par rapport à l'en-soi, les conditions réelles, dans lesquelles il travaille ou à partir desquelles il observe. C'est-à-dire que il a toujours un point de vue, évidemment. Il recherche des choses en particulier et pas d'autres. Il va s'arrêter à certains indicateurs et pas à d'autres, en fonction de ses buts ou en fonction de ce qu'il est capable de penser, simplement. Hein, donc, tout le monde, évidemment, a des perspectives qui sont plus ou moins limitées, plus ou moins focalisées sur certaines choses. Donc, il y a une relativité par rapport à l'être, parce que selon la société dans laquelle on vit, on ne va pas interpréter de la même façon ce qui a précédé. Ou selon la classe dans laquelle on est, on ne va pas interpréter de la même façon. selon l'éducation qu'on a reçue, on ne va pas interpréter de la même façon. Donc c'est ça la dépendance ou la relativité à l'être de l'historien, du connaissant. Mais c'est ça qui est important. Il n'y a pas pour autant une relativité du connu à l'être. Parce que tout ce que cette personne va pouvoir mettre en évidence à partir de son travail, de son étude, de son observation de l'histoire, tout ce qu'elle va mettre en évidence sera vrai. Mais ce sera un aspect. Ça sera vrai, mais une vérité partielle. Parce que la perspective qu'il a, ou le type de recherche qu'il a faite, elle découvrira juste une partie de ce qu'il y avait à découvrir. Et d'autres vont découvrir d'autres parties, vont révéler d'autres parties, d'autres aspects, ou avoir d'autres interprétations ou perspectives. Et en fait, tout ça, ça tisse une vérité de multiples collaborations. Donc, tout ça, c'est le connu. Mais chaque partie du connu apportée par chacun des connaissants, elle n'est pas relative à l'être, elle est vraie. Elle n'est pas juste... Puisqu'on arrive à regrouper toutes ces perspectives et qu'on arrive à les trouver complémentaires, on dépasse au fond par cela même ce qui étaient les limites de chacun des individus connaissants. Et donc, c'est un processus évidemment d'une longueur indéfinie. Hein. On peut continuer indéfiniment à augmenter le savoir sur un certain objet, mais cet enrichissement n'empêche pas que chaque partie ait déjà une vérité partielle. Et donc ça répond à quel problème ça ? Ça répond au problème que l'histoire, ce n'est pas seulement de la construction. C'est le fait que l'historien soit effectivement lui-même dépendant des circonstances de son époque n'empêche pas qu'il y ait une vérité historique rétrospective. Hein, n'empêche pas qu'on puisse dire ce qui s'est vraiment passé et comprendre pourquoi. Donc ce n'est pas une objection pour dire qu'il y a une vérité historique. Hein. Il réaffirme qu'il y a une vérité de l'histoire. Ce n'est pas la même chose que le sens de l'histoire, quoi, qui est vraiment la compréhension en se remettant dans la peau des acteurs, etc. Mais il y a une vérité de l'histoire qui est la reconstitution de ce qui s'est vraiment passé, qui est ce qui s'est effectivement passé. Et il dit, il y a deux manières de refuser de se situer dans l'histoire, hein, de considérer que l'historien est vraiment situé. Il y a deux manières, mais elles sont toutes les deux mauvaises. L'une, c'est de considérer que, de se placer dans un point de vue extratemporel en n'utilisant que des catégories générales. Donc on a déjà ces catégories générales, on dit dans toute époque, il y a une économie, il y a une religion, il y a une morale, il y a des personnes qui font tel et tel métier, et donc je vais appliquer ces catégories à chaque époque et je vais regarder qui fait quoi, et qui fait quoi, et qui fait quoi. Bon, on ne comprendra rien en faisant ça, hein, parce que évidemment on va tomber sur des anachronismes, on va tomber sur des mécompréhensions de ce que ça signifiait à chaque époque, chacune de ces catégories. Donc c'est une mauvaise manière de faire de l'histoire, hein, d'appliquer chaque fois les mêmes catégories générales, en fait, en croyant de cette manière-là échapper soi-même aux catégories particulières dans lesquelles on se trouve, justement. Et l'autre mauvaise manière, c'est de prendre le point de vue de la nature, dit Sartre. C'est faire comme si on parlait du point de vue de la nature, et donc... considérer, alors là on est en immanence, hein, on n'a pas un point de vue de survol, on est bien à l'intérieur, mais non plus à l'intérieur de l'histoire, mais à l'intérieur du processus naturel. Et il dit que, en fait, on se transforme en raison minérale. C'est comme si on était une raison minérale, hein, c'est comme si on disait la nature fonctionne comme ça, et puis on généralise ce processus minéral, finalement, à l'ensemble de l'histoire. Bon, vous avez peut-être reconnu, là, sa critique de Engels, hein, de la dialectique de la nature de Engels. Et, par contre, il dit que si on accepte un certain perspectivisme historique, donc celui qu'il a décrit, hein, un certain perspectivisme où, effectivement, chacun a une perspective à partir de ses circonstances à lui, on ne tombe pas pour autant dans un idéalisme, parce que ce serait ça peut-être un problème, hein, de tomber dans un idéalisme, puisque l'historien à ce moment-là, disons que ses idées à lui, ses pensées à lui, ont une grande importance. Si on considère que son interprétation comme prépondérante, on a l'impression que l'histoire qu'il fait, c'est sa production à lui, en fin de compte, plus que ce qu'il observe vraiment. Mais donc, il a déjà un peu répondu à cette objection. Il ajoute aussi qu'on peut aussi éviter cet idéalisme en considérant que la proximité qu'on peut avoir avec n'importe quel acteur historique, agent historique dans n'importe quelle période, n'est pas une proximité abstraite, mais une proximité concrète. Une proximité abstraite, ce serait de dire « on est tous des êtres humains, donc on comprend tous les êtres humains ». Mais alors, dit Sartre, on accorde beaucoup trop à l'humanité comme si c'était une espèce de substance dont chacun serait un mode, hein, ou dont chacun serait une sorte de copie, d'exemplaire, et qu'il y aurait comme ça une humanité qui ferait la médiation entre tous les individus humains. Alors il dit, bon, une humanité, ça n'existe pas, hein, il n'y a pas ça. Donc, il faut quelque chose de plus concret. Et ce qui nous permet de comprendre toute personne humaine dans n'importe quelle époque, c'est pas cette médiation-là, c'est justement la médiation de la matière. C'est justement qu'on a tous affaire aux mêmes matières, aux mêmes besoins, au même type de dépassement, au même type de conflit et d'antagonisme, au même type de contre-finalité. Et c'est ça qui nous rapproche en fait des autres. C'est ça qui permet notre compréhension. C'est là qu'on a une affinité en fait. C'est là qu'on a une situation commune. Alors, avec toutes ces variations successives, mais n'empêche, c'est par la médiation de la matière et du travail humain sur la matière qu'on comprend ce qui s'est passé dans les autres époques. Donc c'est très concret. Et ça lui permet de... Ah oui, il dit aussi, alors il y a une petite anecdotique, mais tout de même, il dit même un extraterrestre, s'il venait observer l'histoire humaine, eh bien, il serait encore dépendant de sa situation historique. Il le ferait à partir, évidemment, de sa perspective, qui serait aussi historique. Hein. Donc, dès le moment où il serait assez, comment dire, où il aurait une pensée suffisante pour observer une histoire extérieure à lui, il aurait aussi forcément une historicité lui-même. Donc, c'est évidemment totalement inévitable, mais finalement, tant mieux. Tant mieux parce que ça nous permet de comprendre dialectiquement. Et donc, par là, il en arrive à reprendre la pensée qu'il avait formulée à propos du passage de l'organisme vivant à l'histoire. Hein, puisqu'il nous dit, ce qui nous rapproche de tout être humain, c'est d'abord les conditions même vitales, hein, les conditions de notre survie, comment on répond à nos besoins vitaux. Et donc, il rappelle la différence entre la simple unité organique et la simple organisation d'un être vivant, et l'avènement de la praxis et l'avènement de l'histoire. Il dit que l'avènement de l'histoire, c'est un événement absolu. Un événement absolu, ça veut dire un événement qui n'est pas expliqué par le stade précédent, qui n'obéit à aucune nécessité à partir de l'étape antérieure. Donc il n'y avait aucune nécessité dans le vivant pour que, à un moment, advienne un vivant historique. Il n'y a aucune nécessité. Ça a surgi, ça a surgi comme quelque chose d'absolument nouveau, c'est pour ça que c'est un événement absolu, hein, comme quelque chose d'absolument nouveau, qui n'est pas réductible à des conditions antérieures. Rien ne poussait nécessairement à ça. Mais ça avait quand même par contre des conditions constituantes, et pour ça il fallait donc que les organismes qui étaient simplement vivants deviennent des organismes pratiques. Et donc, il nous rappelle, hein, ça me permet en fait de reprendre un peu l'ensemble de ce qu'on avait vu. Un organisme pratique, donc c'est un organisme qui a désormais une action et pas seulement des actes. Alors, la différence qui fait là, c'est on peut déjà appeler des actes le fait que les animaux aménagent la matière qui les environne, aménagent en fonction de leurs objectifs. Donc les aménagent pour leur survie, pour leur meilleur avantage. Et c'est clair que des tas d'animaux aménagent évidemment l'espace naturel. Creusent des terriers, construisent des nids, enfin, ils aménagent. Ça, c'est... Donc là, on peut déjà parler d'actes de leur part. mais on va réserver l'action pour une visée temporalisante, c'est-à-dire pour l'être qui est capable de se poser dans le futur, donc d'imaginer un autre futur qui ne soit pas simplement la répétition de son état présent. Donc il ne vise plus simplement à survivre, à continuer dans sa vie, donc à pouvoir simplement réinstaurer chaque fois l'équilibre de son organisme. Il vise plus que ça, il vise à se développer dans l'avenir. Je viendrai tout à l'heure à la notion de progrès, parce qu'il y a quelque chose déjà de ça qui apparaît. Il vise à se projeter comme dans un avenir meilleur. Il vise à faire mieux, plus confortable, plus efficace. Il ne s'arrête jamais de viser mieux. Et ça commence avec l'outil, dit Sartre, parce que ce qu'il appelle un outil, c'est déjà quelque chose qui est... dont à la fois la production et l'utilisation demandent toute une succession d'opérations qui doivent avoir été visées au préalable, qui doivent avoir été programmées en quelque sorte, qui doivent avoir été développées comme autant d'étapes, autant de moyens pour cette visée de quelque chose de nouveau et de meilleur. Donc cette création d'outils, elle demande la possibilité d'invention, hein, d'invention, de créer quelque chose de tout à fait nouveau, par une série de processus, donc par une certaine complexité. Donc c'est ça l'apparition d'organismes pratiques, et c'est ça qui fait histoire. C'est ça qui fait histoire, c'est que on n'arrête pas de développer cet outil en appareil de plus en plus complexe, de plus en plus technique. On se transmet, donc on peut faire des effets cumulatifs, et c'est ça qui fait histoire. Et c'est comme ça, dit Sartre, qu'on peut trouver les mêmes lois de la connaissance, de l'être et du faire. Parce qu'il y a une réciprocité de conditionnement. En fait, ce qu'on connaît de l'être, donc ce qu'il appelle l'être ici, c'est toujours l'être en soi. C'est ce qui existe indépendamment de nous. C'est toute la nature, toute la matière, tout ce qui nous environne. Donc ça, c'est l'être en soi. La manière dont on connaît l'être est conditionnée par cet être, puisque c'est pressé par le besoin et la rareté que nous sommes obligés de mieux connaître pour mieux y répondre. Et notre faire, c'est-à-dire donc tout ce qu'on va construire, aussi est dépendant de cet être, puisque, encore une fois, c'est pour répondre à ce besoin et à cette pression de la rareté qu'on va développer de plus en plus d'outils, qu'on va de plus en plus... Donc on va à la fois développer plus de connaissances et plus d'outils pour mieux répondre à la pression de cet être. Mais en même temps, il y a réciprocité de conditionnement entre ces trois facteurs, parce que l'être aussi va se modifier selon les mêmes lois, c'est-à-dire va être lui aussi dépassé par nos connaissances et par nos actions, puisqu'il va être transformé, donc il est d'une certaine manière dépassé aussi. Et son dépassement, au fond, est à partir dès le moment où il y a histoire, il est inséparable de ce que nous faisons sur lui. Donc il y a aussi réciprocité. Donc ça veut dire que les mêmes types de mouvements se retrouvent, sont les lois, comme il dit, pour prendre un terme scientifique, sont les mêmes pour l'avancée de la connaissance, l'avancée des actions, des productions, et la transformation de l'être lui-même. Et si on prend, par exemple, l'automatisation donc, qui arrive à un certain moment de l'histoire, il dit qu'elle a toujours été là comme potentiel chez les êtres humains, parce qu'on se sert de son propre corps déjà comme un automate à certains moments. On s'en sert de manière inertielle. Si on veut soulever quelque chose, on s'en sert comme... d'une force, comme si c'était une force d'automate, une force de machine, une force de levier, une force d'outil. Donc, on se sert déjà de son propre corps. Au fond, les outils, c'est jamais que les prolongements des actions qu'on a déjà dans notre propre corps. Donc, l'automatisation, elle est déjà là, en puissance, elle a toujours été un potentiel humain. Et dès le moment où on a commencé à... construire des machines assez complexes pour qu'il y ait toute une série de, d'opérations différentes, à la fois pour les construire et après pour les utiliser, hein, qu'on les utilise avec des opérations très différentes, dès ce moment-là, il y a un autre potentiel qui est celui de la division des tâches, celui de la division du travail. Mais ce potentiel, dit Sartre, il n'y a aucune nécessité qui passe à l'acte. Hein, donc il répète que pas de nécessité à ce que la division du travail se passe effectivement dans une société. Là, évidemment, il s'oppose de nouveau à toute vision déterministe de l'histoire, quelle qu'elle soit. Et dans ce processus de connaissance et d'action sur l'en-soi, on peut passer dans la connaissance par une essentialisation des objets, c'est-à-dire il est même nécessaire, hein, puisqu'on se met à nommer les objets, le nom, c'est toujours, ça correspond toujours à une essence de l'objet. Hein, si on nomme de la même façon des objets qui sont singuliers, qui sont tous des cas séparés, ben c'est bien qu'on reconnaît quelque chose de commun en chacun de ces cas, quelque chose de commun qui correspond au nom, et qu'on pourra dire ben, c'est l'essence de cet objet. Hein, si je peux appeler du nom humain tous les êtres humains, c'est bien que, malgré toute leur singularité individuelle, j'estime qu'il y a quelque chose de commun en eux. Et Sartre dit, bon, on peut éventuellement dire c'est leur essence. Il dit, mais en même temps, c'est juste... l'essence, c'est juste nous qui la repérons. Il n'y a que des individus en réalité. Mais on peut le faire parce que c'est pratique pour la connaissance et ça peut servir aussi à la construction. Mais par contre, il met vraiment en garde contre l'essentialisation des individus. Hein, donc il dit, il y a deux types d'essentialisation des individus. Il y en a une qui passe par les catégories sociales, catégories abstraites sociales, c'est-à-dire c'est assigner à quelqu'un ou s'auto-assigner, hein, ou s'auto-attribuer une essence qui vient de notre origine, notre milieu social, notre appartenance à tel ou tel groupe religieux, culturel, ethnique. Donc tout ça, en fait, si quelqu'un se dit « je suis cela », il s'essentialise. Si quelqu'un se définit comme cela, à partir d'une de ces catégories générales, il s'essentialise. C'est-à-dire il se donne une essence alors qu'il est un individu singulier. Et une autre manière de le faire, c'est se donner un caractère. Donc c'est dire de nouveau « je suis cela » en se donnant une détermination fixe, des déterminations fixes, en disant bah, « c'est comme ça, moi je suis par exemple paresseux ». Et c'est comme ça, « je suis hein, ». Dès qu'on dit ça, on est, comme vous savez, dans la mauvaise foi. C'est ce que Sartre appelait dans L'être et le néant, la mauvaise foi. On est dans la mauvaise foi et ça veut dire que c'est très exactement une fuite devant la liberté, une peur de la liberté. Parce que si on s'essentialise, si on veut être une certaine appartenance et justifier toutes ses conduites et ses sentiments et ses désirs et ses projections par cette appartenance-là, quelle qu'elle soit, si on fait ça, c'est qu'en fait, on ne veut pas reconnaître que tout ce qu'on fait, au contraire, est un choix personnel. Un choix personnel, certes, à partir de ce qu'on aura totalisé, de nos possibilités, du champ pratico-inerte autour de nous, etc., bien sûr. Mais n'empêche que tout est notre propre dépassement de ce champ. Et que donc, toutes ces déterminations par lesquelles on essaye de s'auto-essentialiser, en fait, chacune de nos actions est un dépassement par rapport à ça. Chacune est un dépassement et non pas une confirmation de cela. Parce que même si on dit j'adopte par exemple une coutume culturelle, la manière dont on va la mettre en œuvre sera singulière. Hein? Même si tous les gens de la même culture adoptent les mêmes coutumes, chacun va les faire à sa manière. Personne ne sera exactement dans la même situation à chaque moment, chaque fois qu'il, disons, réalise cette même coutume. Donc, de toute façon, il y a dépassement par le singulier. Et donc, Sartre rappelle à cette occasion donc de arrêter d'avoir peur de la liberté, qui est la praxis constituante. Il dit que c'est une pensée de l'inertie et une inertie de la pensée. Vouloir se figer hein, dans un caractère ou dans une appartenance, c'est une pensée de l'inertie, hein, puisque j'essaye de me faire inerte. Je veux être cela et que tout, en fait, soit juste une expression de quelque chose d'arrêté. Et c'est une inertie de la pensée. Ben, ça m'empêche de penser plus loin et de me penser comme je suis. Alors, il dit que ce qui permet d'échapper à cette inertie de la pensée, c'est de précisément appliquer une raison dialectique à nos actions et non pas une raison positiviste. La raison positiviste, c'est elle qui fait ça, qui essentialise, hein, qui voit des manières d'être définies une fois pour toutes, donc qui établit des catégories. Et je voulais vous lire juste un petit extrait à propos de la raison positiviste. Donc, il dit qu'elle saisit toute conduite pratique comme pur processus inerte. Donc, la raison positive, c'est celle qui, observant une conduite pratique, donc celle qu'on a bien définie hein, avec toutes ses composantes de l'action, comme si c'était un pur processus inerte. Et donc, c'est aussi cette raison positive qui arrive très bien, à partir de là, à développer des machines, puisque les machines imitent ces processus inertes, et successifs et analysés qu'on voit dans la conduite humaine. Si je décompose hein, toute une action humaine. Prenons l'action d'un chasseur, l'action d'un laboureur, l'action d'un artisan. Donc, si toute cette action, dont on a bien vu que l'essentiel était la projection de ses fins, mais si on la considère à la manière de la raison positiviste, on va dire il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça, puis il fait ça. Donc, on va avoir juste une succession de petites opérations et on va dire, ben, on va remplacer ça par une machine qui fait ça, on va remplacer ça par une autre machine, et ainsi de suite. Et on va arriver, en fait, à une succession de machines. Donc, la raison positive, elle va très bien avec la technique, elle développe très bien les machines, puisque pour ça, il faut décomposer un processus en analyse hein, de ses composantes. Et elle aboutit. Le problème, c'est qu'elle aboutit finalement à rendre les humains comme ça. C'est-à-dire parce que dès le moment où elle a construit sa machine comme ça, elle oblige les humains à se soumettre aussi à des processus qui sont de cette manière une succession d'opérations. Et là, je voudrais faire un nouveau prolongement, une nouvelle actualisation de Sartre, parce que je ne sais pas si vous y avez pensé comme moi, mais cette description du remplacement de toute opération humaine par une machine, ça nous fait évidemment penser maintenant à l'intelligence artificielle. Hein, puisque maintenant, on est allé un cran plus loin dans cette possibilité de remplacer une opération humaine par une machine. Et donc, on parle maintenant de l'intelligence. On dit que même l'intelligence humaine, donc toutes les opérations qui, jusqu'ici, semblaient réservées à des humains parce qu'elles nécessitaient l'intelligence, ou certains types d'intelligence, désormais semblent, elles aussi, pouvoir être réduites à des purs processus. Hein, on connaît les processus puisqu'on les programme, on sait le type, on reproduit des apprentissages, hein, donc le processus d'apprentissage, enfin, qui n'était pas un processus chez les humains, parce qu'on ne pouvait le comprendre que par le projet, hein, projet d'enseigner, projet d'apprendre. Donc jusqu'ici, ce n'était pas un processus chez les humains, mais ça devient un processus dans la machine. Le processus d'apprentissage devient vraiment un processus dans la machine. Donc l'apprentissage et même le fait que ces intelligences soient génératives, c'est-à-dire produisent du nouveau, c'est quel type de nouveau ? Ce n'est pas le nouveau absolu qu'on a évoqué, c'est-à-dire hein, vraiment l'invention de quelque chose. Pourquoi ? Parce que pour inventer quelque chose de nouveau, on l'a vu, il faut viser un dépassement. Il faut se dire, je ne veux plus être dans la situation où je suis maintenant, je veux dans l'avenir être dans une autre situation, et pour ça, je vais changer les choses. Et je vais me changer moi-même par la même occasion, mais il faut se situer, c'est-à-dire il faut avoir une première négation qui est celle de sa propre situation, de dire « je n'ai pas envie que ça continue dans la simple répétition », et il faut avoir une deuxième négation qui est celle du futur par rapport au présent, donc mon futur va être autre, donc je vais changer pour qu'il soit autre. Et donc, vous pensez bien, l'intelligence artificielle, elle ne fait pas ça. Elle génère du nouveau en remodelant tout le corpus qu'on lui a donné, etc. Donc, des nouveaux exemplaires, en fin de compte, de la même chose. Forcément, elle est dans la répétition. Comment est-ce qu'elle pourrait être dans autre chose que la répétition, puisqu'elle n'a pas cette conscience qui lui permet de se situer, de se dire « je n'ai plus envie que ce soit tout le temps de la même façon ». Et donc, si on applique à l'intelligence artificielle ce qu'on a pu tirer comme avantage, comme intérêt de la raison dialectique, on pourrait essayer de la replacer dans l'ensemble de l'avancée historique. Qu'est-ce qu'elle représente dans l'ensemble de l'histoire de notre société ? Alors, du point de vue des... du mouvement économique et technique, pas grand-chose. Elle est en continuité. Économiquement, c'est clair que, de nouveau, Sartre dit, l'inventeur, la société, chaque fois qu'elle fait une avancée technique, elle passe par la médiation des visées de l'inventeur. Et réciproquement aussi, l'inventeur qui développe quelque chose, effectivement, qui développe la nouvelle technique, lui aussi, ses visées passent par les visées de toute la société. Donc, il y a un conditionnement réciproque. Comment ? Parce que la société, pour pouvoir développer des nouvelles techniques, forcément, elle doit se servir de personnes capables de le faire. Elle les forme pour ça. Et puis après, ils vont plus loin que ce qu'elle pouvait déjà leur avoir donné par l'instruction. Les finalités de cette société, elles sont déterminées par ceux qui ont installé ces structures de production. Donc, on sait bien que c'est la finalité, en fait, c'est faire plus de profit, c'est faire plus de production, donc diversifier, inventer des nouveaux gadgets, des nouveaux marchés, plus de profit. Bon. Alors, les finalités de l'inventeur, ce n'est pas directement celle-là. C'est quoi ? Premièrement, il peut être passionné. Ça peut être quelqu'un de passionné de technique, qui adore inventer, etc. Donc déjà, il y a sa réalisation de soi, en fait. C'est pour ça que c'est une médiation. Ce n'est pas juste les fins de la société qui passent directement en lui. C'est une médiation de ses propres fins. Lui, ça lui plaît d'inventer quelque chose de nouveau. Donc il y a ça, il y a son plaisir. Il y a aussi le fait qu'il y a sa survie. Et donc, en général, c'est sa profession. C'est par là qu'il gagne sa survie. Donc c'est aussi des fins particulières. Mais celles-ci sont à leur tour conditionnées par celles de la société, parce que s'il est obligé de faire ce genre de métier pour vivre, c'est parce que le cadre social lui impose. C'est qu'il n'y a pas... il peut choisir parmi toutes les professions qui permettent de gagner de l'argent, mais s'il choisissait une profession qui ne permet pas de gagner de l'argent, il ne survivrait pas. Donc en ce sens, il est quand même conditionné par la structure de sa société. Donc je reviens à mon idée de l'intelligence artificielle. En fin de compte, c'est exactement la même chose que ça. Ça s'est développé par l'intermédiaire d'inventeurs qui avaient un grand plaisir à inventer chaque fois des nouvelles choses, par l'intermédiaire de groupes partiels qui visaient leur profit. Et d'une certaine manière, parce que toute la société, toute la structure de la société y gagne, puisqu'elle a besoin d'une croissance perpétuelle. Et donc là, qu'est-ce qui va arriver grâce à l'intelligence artificielle ? Énorme gain de temps. Plus besoin de payer autant de personnes puisqu'on va les remplacer de nouveau par des machines, donc davantage de profits, davantage de produits qui vont être payants, donc croissance de la masse économique, etc. Donc ça correspond tout à fait aux fins de la société globalement. Donc on peut vraiment replacer cette invention dans la continuité de toutes les inventions de la société industrielle. Du côté de l'utilisateur, c'est la même chose. L'utilisateur, il a déjà l'habitude d'utiliser des outils, d'utiliser ce qu'on... y compris les technologies avancées. Qu'est-ce que ça lui a ? Ça lui apporte juste encore un petit degré en plus, encore un peu moins de choses à faire lui-même et un peu plus à faire à une machine. Mais enfin, c'est dans la continuité, c'est juste plus efficace. Mais le grand changement, et là c'est une pensée que je soumets à votre jugement, votre débat, c'est le grand changement, à mon avis, c'est justement ce qui a à voir avec ce que fait de nous la raison positiviste. C'est que pour beaucoup de personnes actuellement, cette intelligence artificielle est vraiment s'approche vraiment de l'humain, est vraiment quelque chose de quasiment identique à l'humain. C'est-à-dire que les opérations qu'elle est capable de faire, on a l'impression que c'est tout ce que l'humain peut faire. C'est-à-dire que là, en ayant gagné toutes ces opérations intellectuelles, on a épuisé le champ de l'humain. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qui nous reste encore comme différence? Qu'est-ce qu'il y a encore comme différence entre une intelligence artificielle et nous? À la limite, c'est nous qui perdons à la comparaison, parce qu'on est moins efficace, on va beaucoup moins vite, beaucoup moins loin dans toutes ces opérations. Donc, vous avez vraiment une dégradation, une autodégradation de l'humain par rapport à ces machines. Et c'est dû à quoi? Mais c'est dû au fait que, de moins en moins, on se pense, en tant qu'être humain, comme... Enfin, on pense notre spécificité comme justement cette praxis libre, ce dépassement par une temporalisation, cette négation, cette visée d'un ailleurs, toutes choses qui, si vous les reprenez une par une, n'existent pas dans l'intelligence artificielle. Et pourquoi tant d'humains ont cessé, alors je ne sais pas s'ils ont cessé ou s'ils ne l'ont jamais eu, hein, je ne sais pas dans quelle mesure... Je crois quand même qu'on se pense de moins en moins comme cette spécificité de l'action libre et de la visée. Je pense que c'est de moins en moins. Et pourquoi? Parce que la raison positive, c'est elle qui domine les sciences dites humaines. Les sciences dites humaines, en fait, elles sont extrêmement déshumanisantes. Elles sont déshumaines, ces sciences. Parce qu'elles obéissent à une raison positive, parce que c'est ça qu'elles veulent construire. Et elles construisent un humain qui est justement essentialisé en fonction de la spécialisation de chacune de ces sciences. La science psychologique, et je parle ici de celle qui se veut scientifique, hein, donc celle qui se veut expérimentale, comportementale, etc. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle réduit l'humain à une succession de comportements et elle essaye d'agir sur ces comportements, exactement comme un technicien va faire avec une machine. Exactement. La sociologie, l'anthropologie réduisent l'humain à un processus d'influence, de déterminisme, de classe, de milieu, ou de structure, comme dans l'anthropologie, de structure culturelle, mais réduisent l'humain à ça. Et bon, c'est une tendance, hein. Il y a bien entendu des exceptions et des spécialistes qui travaillent autrement. Mais en gros, c'est ce qui est le plus vulgarisé et c'est ce qui est le plus intégré, je crois, par les non-spécialistes. C'est ce qui est le plus intégré. Vous voyez vraiment énormément de personnes maintenant qui pensent vraiment qu'elles sont déterminées à la manière de processus, enfin par des processus à la fois psychologiques et sociaux. Donc on a une... En fait, une conscience de soi en tant qu'humain qui est dictée par une raison positiviste, qui nous identifie à des mécanismes machiniques. Et c'est pour cette raison-là, en fait, qu'on arrive si mal à faire la différence entre nous et des intelligences artificielles. Alors qu'en réalité, c'est un gouffre, la différence. Elle est énorme. On est un autre mode d'être, on est un autre type d'être. Donc elle est énorme. Donc, un petit peu de philosophie dialectique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mise en évidence de la liberté, elle est dans l'existentialisme, bien sûr, hein, c'est là au départ qu'elle a été développée, mais elle est tout à fait confirmée par la raison dialectique. Et vous voyez là de nouveau comment on peut unifier alors toute l'œuvre de Sartre, cette fois-ci, hein, comment on peut totaliser l'œuvre de Sartre. Son objectif au départ, c'était bien de montrer que existentialisme et raison dialectique étaient vraiment la même raison, la même philosophie. Et c'est ce qu'il montre, puisque la raison dialectique aussi repose entièrement sur cette praxis constituante, sur ce dépassement, sur cette temporalisation avisée du futur. Et donc elle ne fait que confirmer tout ce que disait déjà l'existentialisme, simplement en ayant ajouté toute la dimension du travail, de la matière qui peut-être manquait au départ. Et alors avant de vous soumettre... Là, on est quasiment à la fin. Hein. Donc, avant de vous soumettre donc ces réflexions et qu'on en discute, je voudrais juste encore ajouter un tout petit peu, parce qu'il y a des annexes dans le deuxième tome, des annexes sous forme de fragments qui ont été retrouvés donc, dans les notes de Sartre, mais qu'il n'a pas eu le temps de mettre en forme. Dans ces fragments, il y a malheureusement très, très peu sur la question qui ne sera jamais résolue, qui est celle de... Est-ce qu'il envisageait quand même un dépassement réunificateur, retotalisant de notre société conflictuelle ou pas. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse là. Mais par contre, il y a quelques réflexions sur le progrès. Hein, je vais juste terminer par ça, parce qu'il y a une étude du progrès qui peut donner quelques indices. D'abord, donc, Sartre, il n'est pas du tout... Il est très systématique toujours dans son analyse d'une certaine notion. Donc il commence par dire toute l'ambiguïté de ce terme de progrès. Ambiguïté dans le langage courant. Parce qu'un progrès, ça veut aussi bien dire l'avancée en général de n'importe quel processus, mouvement ou chose qui avance, y compris quand c'est négatif. Hein. On peut dire la maladie progresse. Hein. La maladie progresse, c'est pas vers le mieux. Ou alors... un sens plus étroit qui est uniquement avancer vers le mieux. Donc progrès est déjà très ambigu. Hein. Quand on dit ça progresse, ça peut être bon ou ça peut pas être mauvais. Quoi. Il y a déjà les deux. Alors, il commence par étudier le progrès chez un individu. Qu'est-ce que c'est progresser pour un individu ? Il dit progresser pour un individu, c'est toujours par rapport à une certaine finalité. On a besoin donc d'une comparaison, de termes de comparaison, et surtout de pouvoir faire une évaluation en fonction de ce qui était l'objectif. On dira il y a progrès si on va vers l'objectif qu'on s'est fixé, si ça réalise la finalité. On dira il n'y a pas de progrès si ça ne réalise pas la finalité. Donc ça dépend énormément de quelle finalité on fixe finalement pour décider s'il y a progrès. Hein, sinon, on ne peut pas décider. Or, la fin projetée ne va jamais se réaliser telle qu'elle a été projetée. Il y aura toujours des transformations qui auront eu lieu entre-temps, parce qu'on aura rencontré des obstacles, de l'imprévu, on aura dû un petit peu rectifier, modifier, etc. Et puis, soi-même, la personne même qui visait ce progrès aura changé entre-temps, puisqu'elle aura rencontré des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, etc. Donc, il y a toujours une petite déviation, ce qui fait que Sartre dit il faut, au fond, on ne peut évaluer un progrès que sur un temps long, parce que si on évalue sur un temps court, on va se trouver à devoir évaluer toutes les contre-finalités d'abord. Donc, si on visait quelque chose et que, en premier lieu, on va plutôt avoir les obstacles, les inadéquations, les besoins de modifier son projet. Et donc, on va dire, mais c'est pas du tout un progrès. On a d'abord les contre-finalités. Ce qu'il faut voir, c'est si on arrive justement à passer au-dessus de ces contre-finalités et que il y a un progrès final, quoi. Hein, et qu'au bout de tout un temps, il y a vraiment une situation qu'on peut dire, là, elle est installée comme meilleure. Bon, mais ça rend difficile, alors... qui vont être les évaluateurs ? Ceux qui sont en train de le faire voient beaucoup plus difficilement le progrès que rétrospectivement quelqu'un qui peut l'observer sur un long temps passé, déjà passé, hein, qui peut vraiment beaucoup mieux le constater. Sauf que leurs objectifs à tous les deux sont différents. Et donc, on ne sait jamais qui peut évaluer un progrès. Hein, c'est ça qu'il faut voir. On ne sait jamais qui va l'évaluer. Et en plus, s'ajoute, alors ce que tout le monde sait bien, c'est le progrès n'est pas évalué de la même façon selon qui en bénéficie, bien sûr. Pour qui est-ce un progrès et pour qui est-ce que ce n'en est pas ? Bon, ben donc tout ça s'ajoute à l'évaluation de notre société et il dit que notre société, en fait, elle est basée sur le mythe du progrès. Ça signifie que notre société, en tant que capitaliste, elle repose entièrement sur l'idée que tout ce qu'elle développe de nouveau, toutes ces innovations vont vers le mieux. Elle a besoin de cette justification que toutes ces innovations vont vers le mieux et elle a besoin de se justifier parce qu'elle a besoin de l'innovation. Si elle n'innove pas, elle s'écroule. Donc elle a besoin de justifier constamment qu'on va vers le mieux. Et c'est pour ça qu'on est dans le mythe du progrès. Parce qu'il est impossible au sein de cette société de dire non, on ne va pas vers le mieux. Il faut changer, parce que ça mettrait en question ces principes mêmes. Si on disait on ne va pas vers le mieux, il faut changer, et qu'on demande, bon alors qu'est-ce qu'il faut changer ? On en arrivera vite à dire, il faut changer notre obsession de l'innovation, donc il faut renoncer à maintenir artificiellement cette société dans sa continuité. Et donc, voilà comment je termine, en utilisant encore les derniers fragments qu'on peut trouver dans ce livre. Peut-être que par l'intermédiaire de cette critique du mythe du progrès, on peut aussi faire prendre conscience à, disons, un plus grand nombre de personnes que cette société n'est pas viable pour des raisons qui lui sont vraiment intrinsèques et principielles, et que de cette manière, on pourrait peut-être atteindre cette première homogénéisation d'une observation et d'un désir de dépassement. Et qu'à partir donc de cette nouvelle unification par une certaine conscience de ce qu'on ne veut plus et de ce qu'on veut, on pourrait avancer vers ce fameux changement.
Oui. Par rapport à l'intelligence artificielle, donc, pendant toutes les différentes séances, on a évoqué dépassement. Et les commentaires que vous avez fait par rapport à cette intelligence artificielle, moi, je l'ai perçu comme qu'on est un peu, pas en opposition, mais en conflit, on pourrait dire, comme intelligence artificielle qui arrive, qui va au-delà de ce qui est capable la personne, ou même qui a une conséquence de sous-développer à la personne. C'est-à-dire, on lui transfère des tâches qu'on ne fait plus nous, et en conséquence, on se développe moins, et c'est l'intelligence artificielle qui prend tout ce rôle-là, qui s'emballe et qui on ne contrôle pas. Donc, il y a une espèce de conflit. Moi, j'ai perçu ça. Est-ce que c'est pas possible une notion de dépassement dans le cadre de cette relation avec l'intelligence artificielle? Pas plutôt comme quelque chose qui nous prend, mais plutôt comme quelque chose qui nous élève. C'est-à-dire, on s'approprie, on interagit tous les deux, de façon que l'être humain, il perd pas, mais en utilisant l'intelligence artificielle, il va au-delà de ce qui est capable aujourd'hui.
C'est une suggestion très intéressante. C'est vrai qu'on pourrait se dire que on pourrait en faire un instrument pour aller plus loin nous, c'est-à-dire profiter du fait qu'on ne doit plus exercer certaines tâches pour justement en inventer des nouvelles qui soient plus intéressantes, par exemple.
Ou même sans rien inventer. C'est-à-dire, je m'en vais de l'utiliser, par exemple, pour apprendre. Moi, je vais être capable d'apprendre plus de choses, d'aller dans un niveau de connaissances plus profond, si moi, je m'en sers intelligemment de l'intelligence artificielle. Ça, c'est de mon côté, c'est une réalité.
Oui, alors, je pense que c'est possible, mais il y a quand même beaucoup de conditions. Il faudrait beaucoup de conditions. Et la première condition, massive à mon avis, c'est qu'il faudrait que l'ensemble de ces machines hyper perfectionnées, quand elles nous épargnent de faire toute une série de tâches, ça ne nous amoindrisse pas nos conditions de connaissance, nos facultés de connaissance. Et je pense que pour le moment, c'est en train de se passer. Il y a une perte de facultés qui servent à la connaissance, puisqu'il y a une perte de mémoire, puisqu'on n'a plus besoin de mémoriser. Hein, il y a une perte de repères dans l'espace et dans le temps, puisqu'on n'a pas besoin, tout est enregistré. Et donc, il y a vraiment, pour le moment, une perte de facultés. Et donc, plus on perd de facultés, moins bien on va apprendre même des choses nouvelles aussi. Donc, à condition qu'on ne les perde pas, oui, ça pourrait être intéressant. Le problème, c'est que c'est très difficile de dire... On va continuer à s'exercer à tout faire nous-mêmes, à exercer notre mémoire, à exercer notre capacité de synthèse, d'analyse, de calcul, de repérage dans l'espace. On va continuer à exercer tout ça alors qu'on n'en a plus besoin. Et je pense qu'on ne va pas le faire.
Il y a aussi une éducation d'utilisation de l'intelligence artificielle qui doit arriver et qu'aujourd'hui, elle n'est pas présente. Parce que c'est une chose qu'on donne aux toutes petites. C'est une bombe. Mais par contre, si on apprend à bien l'utiliser, c'est quelque chose qui peut venir complètement de l'autre côté et aider à la personne. Mais bon, ça, c'est un peu idéaliste, peut-être. Mais c'est comme la calculatrice avant. La mathématique qu'on fait sans ou avec calculatrice, il faut bien utiliser la calculatrice parce que ça va nous permettre. Oh.
C'est pas pareil. Il y a des algorithmes derrière. Les algorithmes, ils sont faits par des gens.
Et la calculatrice aussi.
La calculatrice, c'est très simple. Avant, il y avait le boulier, elle fait exactement pareil.
Donc,
le problème de l'intelligence artificielle, tu dis, c'est un plus pour nous. Oui, c'est un plus pour automatiser, pour robotiser, pour avoir des super profits dans le capitalisme. Mais à nous, à quoi c'est un plus? Tu dis, moi, je vais apprendre plus. Mais si tu vas écouter des conférences ou regarder des podcasts ou écouter des gens, tu apprends, tu as des bons profs, tu as des gens qui ont des bonnes pédagogies, tu peux apprendre, tu n'as pas besoin du tout de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu as déjà interrogé l'intelligence artificielle sur un travail? Est-ce que tu as demandé de faire un travail et le rendu qu'elle t'a donné?
Ah oui, et je me méfie, absolument, je me méfie.
Non, mais ce n'est pas une question de se méfier ou pas, c'est que si tu lui donnes 4 éléments, elle va te répondre avec les 4 éléments que tu lui as donnés. Si tu en donnes 8, elle va te répondre. Si tu en donnes, c'est exponentiel. Parce que si tu veux, pour travailler, elle a besoin que toi, que tu sois une sachante. Parce que sinon, elle ne peut pas bien travailler. Et l'autre truc, moi, je voudrais dire sur l'intelligence artificielle, parce que c'est vraiment un mot, c'est deux mots à coller. C'est qu'il y a une chose que je pense qu'a voulu essayer de faire ressortir Annick, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne peut pas nous enlever, c'est notre imagination. Et ça, elle ne sait pas faire, l'intelligence. Imaginer quelque chose, elle ne sait pas. Elle saura amalgamer des bouts de savoir à tout le monde.
On est d'accord.
Mais imaginer quelque chose, c'est-à-dire l'imaginer, pour le moment, je ne la vois pas imaginer quelque chose. Et là, à ce moment-là, je pourrais l'appeler intelligence. Pour le moment, s'il n'y a pas d'imagination, c'est un supercalculateur qui est programmé, qui est orienté dans sa programmation. Ça, il faut le voir aussi, parce que derrière, c'est le codage, c'est pas neutre. C'est comme tout, hein. C'est comme un journal, c'est pas neutre et tout. Donc, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et pour moi, c'est une prothèse supplémentaire.
C'est un assistant.
Qu'on nous met, mais pour le capitalisme, ce n'est pas une prothèse, c'est une augmentation des profits, parce qu'elle va se débarrasser des humains qui lui coûtent cher, qui font grève, qui sont malades, qui tout ça et tout. Donc voilà. Et si tu veux, moi, je vois pas. Si tu veux, je vois pas. On dit, Annick en a parlé, c'est vrai que l'intelligence artificielle apporte des choses. Et l'exemple qu'on nous donne tout le temps, c'est dans la santé. Oh, ça fait des progrès à tout le monde, la santé. Sauf qu'actuellement, où elle se développe le plus, c'est dans l'armement, c'est dans les drones et c'est dans tout ça. Et si vous voulez gagner de l'argent actuellement, il faut investir dans l'entreprise qui s'appelle Mistral, qui est une entreprise d'intelligence artificielle française, et qui va se prendre des milliards et des milliards que notre nouveau gouvernement ou n'importe quoi va lui donner pour justement se développer dans un secteur qui est bien précis, c'est celui de l'armement. Et dans l'armement, ce n'est pas nous. Si c'est nous, c'est nous en dessous, mais ce n'est pas nous. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas... Et en plus, il faut regarder quelqu'un comme Musk. Musk est quelqu'un, il faut voir pourquoi il a besoin de développer tout ce système-là. Il faut voir pourquoi il a besoin de tout ça. Et il ne développe pas qu'un segment, lui. Il essaye de développer. Il a une conception de la vie, c'est vrai, qui est radicalement différente de celle qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Mais est-ce que des gens veulent vivre dans la vie de Musk? Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de vivre dans la vie de Musk. Ni dans son environnement, ni dans tout ça et tout. Voilà, je préfère bricoler dans mon coin que...
Tu as tort.
Je vais juste reprendre les différents types de critiques et aussi éventuellement de valorisation de ce genre d'outils. Il y a une critique économique, évidemment, qui entre dans la critique générale du système de profit, hein, ça c'est clair. Et d'ailleurs, l'armement, oui, qui fait partie aussi des piliers du capitalisme, hein, parce que dès le moment où c'est la guerre de tous contre tous, ben, ça se matérialise dans la vraie guerre. Quoi, hein, donc ça, c'est fait partie de la même chose. Il y a une critique du fait de perdre des facultés parce qu'on les fait faire par une machine. Ça, je pense que ça reste une critique importante, alors même qu'on peut défendre l'outil en disant « oui, mais une bonne utilisation, etc. » Oui, il y a des bonnes utilisations. qui pourrait nous épargner du temps et nous permettre de faire des choses plus intéressantes à la place de ce temps, tout ça. C'est vrai qu'il y a une certaine utilisation de l'outil qui pourrait être libératrice pour les humains, mais la limite de ça, c'est, sauf si ça nous fait perdre nos fonctions, et je dirais même la calculatrice, à la limite, si après ça nous empêche de savoir faire un calcul nous-mêmes, eh ben, c'est une perte. Donc, tout est une... Enfin, donc là... Il y a toujours l'idée, il faudrait quand même continuer à être capable de faire tout ça nous-mêmes. Mais donc, on pourrait simplement dire, à ce moment-là, on l'utilise quand on a vraiment besoin de gagner du temps, mais quand on est moins pressé par le temps, c'est-à-dire quand on n'est pas, par exemple, dans un système capitaliste, eh bien, alors on le fait nous-mêmes, hein, pour quand même conserver. Et alors, la troisième critique, ben, c'est celle que j'ai voulu introduire, c'est ce problème que c'est un élément qui renforce cette idée que l'être humain, au fond, n'est rien de plus qu'une machine hyper perfectionnée et que par conséquent, enfin, c'est cette difficulté pour beaucoup de gens à se poser encore comme différent de cette intelligence, peut-être parce qu'on croit que l'intelligence est le propre de l'humain, ce qui n'est pas vrai, hein, ce qui est de toute façon une erreur. Mais surtout, ce qui m'effraie, et là où je verrais une critique, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un plaisir de beaucoup de gens à se positionner comme ça, un plaisir de se faire chose, un plaisir de ne pas être différent d'une machine super perfectionnée. C'est ça qui est effrayant. C'est ceux pour qui c'est vraiment volontaire de se considérer comme... C'est une soumission, c'est effectivement une soumission. La servitude volontaire est aussi un cas particulier de ça, quoi. Du fait de dire je préfère être un pion dans un jeu que quelqu'un d'autre mène. Je préfère être traversé par des choses dont je ne suis pas responsable. Enfin, voilà, j'en arrivais, mais c'est très différent, évidemment. C'est une critique tout à fait différente.
La personne qui veut se soumettre à la machine, être dans la servitude volontaire, est-ce que sa liberté est préservée ? Parce que c'est peut-être sa visée. Si c'est sa visée, si c'est son projet de... bon, alors...
Oui, mais le projet de ne pas être libre de choisir, c'est contradictoire. Hein. Je veux dire, ça peut... Puisque... Poser le projet suppose qu'on est libre de poser le projet. Donc, poser le projet de ne pas poser de projet, ce n'est pas possible. Ou ce n'est possible que dans la mauvaise foi, c'est-à-dire dans quelque chose de contradictoire. Quoi. C'est pas... On ne peut pas assumer, on peut pas décider qu'on n'est pas un être de projet. Ce n'est pas possible. Donc, on peut effectivement décider d'être soumis, de se laisser faire, mais on doit se dire qu'on est responsable du choix de se laisser faire. Et alors ça va bien. Alors si on dit je sais que je suis libre, mais j'ai envie de juste répéter ce que tout mon entourage fait, faire exactement la même chose que tout mon entourage fait, ok, d'accord. Mais alors il faut dire c'est mon choix. C'est mon choix de faire ce que mon entourage fait et j'aurais d'autres possibles. Si je voulais choisir autre chose, je pourrais choisir autre chose. Je pourrais rompre avec mon entourage et faire autre chose. Là où c'est de la mauvaise foi, c'est quand on ne dit pas « je choisis de faire ce que fait mon entourage », c'est là où on dit « je ne peux pas faire autrement puisque je suis née là et comme je suis, hein, et que je suis née comme je suis ». C'est ça en fait qu'il faut dénoncer, et malheureusement c'est quand même assez fréquent.
Pourquoi quand tu dis « l'intelligence n'est pas le propre de l'homme », tu penses à des animaux ou tu penses justement à l'intelligence artificielle
ou les deux,
dans les deux cas. Et les deux. À quel type d'intelligence, justement, comment on définit l'intelligence ? La capacité de faire des liens, la capacité de...
Oui, en fait, c'est justement un terme très large c'est la capacité de faire des liens, de faire des opérations. En fait, on l'a défini au fur et à mesure qu'on fait des nouvelles opérations, on augmente, on étend l'extension de l'intelligence, quoi, tu vois. C'est sûr que tout ce qu'on réunit sous l'intelligence humaine, c'est toutes ces opérations de écrire un texte, retenir de l'information, calculer. Alors, il y a une intelligence animale hein, qui a un certain calcul pratique. Les animaux, ils ont un certain calcul pratique. Par expérience, ils décident s'ils vont faire ça ou ça. C'est une forme d'intelligence. Ils ont déjà, ils font des relations, effectivement. Ils apprennent. Ils sont. Donc, c'est une forme d'intelligence. C'est pas un problème, en fait, d'étendre la notion d'intelligence, parce que justement, encore une fois, on peut la comprendre simplement avec la raison positive qui dit, ben voilà, si on fait, s'il y a au minimum telles et telles opérations, bon, on peut dire que c'est de l'intelligence. Hein. Si un être est capable de tels ou tels actes, on peut dire que c'est de l'intelligence. C'est conventionnel, cette définition. Et donc, on peut l'étendre aux machines, c'est pas un problème.
Par contre, ce que je trouve justement, une des choses que tu as dit, c'est qu'un critère important, et ça s'applique, je pense, à la fois aux IA et aux autres animaux que l'humain, hein, c'est cette idée qu'une des caractéristiques de l'intelligence humaine, justement, c'est de pouvoir imaginer un futur qui est différent de ce qu'il a toujours vécu. Et puis d'orienter ses actions et d'utiliser son intelligence pour créer ce futur. Et ça, peut-être que, par rapport à ce que Marc a dit, effectivement, les IA ne le font pas.
Le fait de poser un autre futur que le présent, ce n'est pas un acte d'intelligence. C'est-à-dire que ça ne relève pas de l'intelligence dans la pensée de Sartre. Ça relève de la négativité. C'est-à-dire, c'est propre à la conscience humaine en tant que négativité. C'est-à-dire capacité de dire non. Et ça, c'est pas une forme d'intelligence. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et de plus universel, et de plus. Ça relève pas d'une faculté en particulier. Quoi. C'est vraiment un mode d'être, de la capacité de dire non à ceci, oui à cela, et de le poser explicitement, consciemment, etc. Parce que sinon, on pourrait dire l'animal qui choisit de poursuivre une proie plutôt qu'une autre, on pourrait dire métaphoriquement, il dit non à l'une et oui à l'autre. Mais non, ce n'est pas vrai, justement. Il n'a pas cette position du négatif, quoi, cette décision de dire ça, non. Et ça, c'est ça le plus précieux, en fait, dans l'humain. C'est ça qui fait qu'il avance. C'est ça qui lui est propre. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut... entrer sous l'une de ses facultés, que ce soit imagination ou intelligence ou autre, ça appartient pas à l'une de ses facultés. C'est plus profond.
Mais tu as bien dit, l'intelligence n'est pas le propre de l'homme. Donc ça va surtout vers ce penchant du néant et de la négativité, qui se définit pas en termes d'intelligence.
Ce qui peut peut-être gêner dans ce plus profond, cette ontologie, c'est que peut-être qu'au niveau philosophique, ça redevient de la métaphysique. Enfin, je ne sais pas, m'est venue cette idée que c'était peut-être quelque chose que... Qu'est-ce qui est plus profond que l'intelligence, que les liens, que tout ce que peut faire l'intelligence artificielle ?
En fait... Quand je comprends pourquoi tu dis que c'est peut-être métaphysique, parce que tu as l'impression qu'on le prend comme une sorte de principe surnaturel. Hein. On aurait, par une sorte de miracle, voilà. une capacité différente de tout le reste. Ouais. Voilà, ce serait comme un miracle.
Mais en fait, dans un processus.
Oui, mais c'est pas du tout comme ça, en fait, parce que c'est empirique, c'est une constatation empirique. Il n'y a rien de plus certain que notre propre conscience, en fait. C'est tout à fait empirique. Dire tout le monde peut faire l'expérience par lui-même de sa propre conscience et de savoir en fin de compte c'est quoi finalement ce qui dit je, tu vois, c'est quoi ce qui dit je, c'est ce qui est toujours derrière l'objet, quoi. C'est ce qui est toujours derrière l'objet. C'est quoi je sens? C'est l'apparition de l'objet senti plus moi qui suis derrière. Je pense, c'est l'apparition de la pensée plus moi, à qui ça apparaît, à qui ça arrive. Et ce jeu qui est toujours là derrière, etc., c'est ce qu'on essaye de saisir sous les mots de sujet, par exemple, hein, ou de conscience. Et c'est empiriquement, c'est évident que c'est là, quoi. C'est évident que c'est là. Tu as quelque chose qui dit jeu, quoi. C'est ça, c'est ce truc-là. Et ça n'a rien de surnaturel, rien de... Simplement, il se fait qu'au cours de l'évolution des espèces, à un moment, ça a surgi. Mais tu pourrais dire que c'est tout aussi étonnant qu'à un moment de l'histoire des espèces, à un moment de l'histoire de la Terre, du vivant a surgi. C'est tout aussi étonnant. C'est tout aussi nouveau et différent de tout le reste. Donc, l'évolution, à un certain moment, atteint un stade qui n'est plus seulement quantitatif, continu, mais qualitatif, voilà, une nouvelle chose. Et c'est ça. Mais ça n'a absolument rien de surnaturel. Et je dirais, non, vraiment, c'est quelque chose de très éprouvé par chacun de nous, quoi. Il suffit de se poser la question.
Et Sartre, quand il rejoint avec le savoir qu'il a, avec les connaissances qu'il a, les relations qu'il a, quand il rejoint le Parti communiste, comment peut-il rejoindre, en tant que philosophe, en tant que quelqu'un qui est, soi-disant, un libertaire, en tant que quelqu'un qui prône la liberté, comment peut-il, explique-moi, comment peut-il rejoindre le Parti communiste alors qu'il y a eu la terreur stalinienne qui a été une des pires saloperies au monde qui a eu lieu, pas que, mais il y a Hitler et tous les totalitarismes. Comment il peut, à ce moment-là, lui, philosophe, agir en faisant ça?
En fait, ça demande de récapituler à peu près tout ce qu'on vient de faire en 6 séances. Parce que justement, c'est ça l'explication, c'est justement que Sartre, quand il a soutenu pendant 4 ans, de 52 à 56, le Parti communiste français, c'était pour des raisons qui n'endossaient absolument pas toute la totalisation de ce qu'était et le projet communiste et sa réalisation déviée par l'Union soviétique et les pays satellites, donc qui endossaient même pas les projets du Parti communiste français eux-mêmes, sauf deux projets. Donc il était un soutien uniquement pour deux projets du Parti communiste qui lui semblaient malheureusement ne se trouver nulle part ailleurs, sinon il serait allé ailleurs les chercher. Mais c'était à l'intérieur de la sphère nationale s'opposer à De Gaulle avec la force et la masse nécessaires, et à l'extérieur s'opposer à l'impérialisme américain qui était en train de déferler avec le macartisme, etc. Donc c'était ça. Et c'est une époque, parce que je me souviens que tu m'avais fait la remarque, c'est une époque où l'URSS, au contraire, est en retrait sur la scène internationale. C'est l'époque du socialisme dans un seul pays. C'est l'époque où on se resserre sur les problèmes intérieurs et où, peut-être par opportunisme, on cherche à avoir une paix sur le plan mondial pour avoir le loisir de résoudre ces problèmes intérieurs. Donc c'est probablement par opportunisme et tout ce que tu veux. Mais il n'empêche. Et donc, il faut vraiment isoler ces deux raisons-là et se dire qu'à ce moment-là, ça lui a paru suffisant pour soutenir le Parti communiste français. Mais en aucun cas, il n'a justifié toute l'histoire de ce qui s'était passé en URSS. Jamais. Enfin, en aucun cas. Alors après, évidemment qu'il est allé en visite officielle, il a... Oui, j'ai mentionné le fait qu'à un moment, quand il est revenu, il a dit ensuite, je ne suis pas très fière d'avoir, à ce moment-là, j'ai menti. Et j'en suis pas fière. Évidemment que le fait de soutenir le PC le contraignait aussi à certaines actions. Mais ça, tu le replaces dans le pratico-inerte. C'est-à-dire, dès le moment où il a posé cette action, où il a fait ce choix de soutenir le Parti communiste pour les deux raisons qu'il a dites, dès ce moment, il devait aussi accepter certaines conséquences qui relèvent du pratico-inerte. C'est-à-dire, c'est des conséquences qui ne sont pas choisies, qui ne sont pas voulues par lui, mais il doit les faire, sinon son projet ne marche pas. Sinon, il ne soutient pas son PC. Donc, il l'a fait. Et c'est complètement cohérent avec cette théorie. Complètement cohérent avec cette théorie de l'action qui est je dois accepter aussi qu'il y ait des déviations ou que pour réaliser mon projet, je dois sauter au-dessus d'obstacles. Ouais, c'est complètement cohérent. Après ça, il n'a pas tué son père et sa mère non plus. Hein, mais il n'a pas fait, lui, tout ça. Tu vois. C'est autre chose encore de, d'avoir... Et on ne peut même pas dire qu'il ne l'a pas dit, il le dénonçait. Il le dénonçait, il le disait, enfin, tout ce qui s'était passé, il reconnaissait toute l'horreur des épurations, etc. Il l'a dit, même avant 52 et même après. Donc, il faut vraiment dire, et il y a des personnes qui ont cette pensée que pour réaliser ces objectifs, il faut accepter certaines contre-productions, quoi, qui sont, elles, pas choisies. C'est vrai que... Et d'ailleurs, son hommage à Camus, c'est un bel hommage. Tu vois, quand Camus est mort, bon, il s'était brouillé depuis longtemps, il le regrette. C'est un bel hommage parce qu'il campe bien l'homme et il dit « Camus, c'est celui qui a toujours voulu être pur. Hein, » qui a... Et c'est un autre choix d'action. C'est un autre choix d'action. C'est de dire « Je ne vais jamais faire une action qui déroge à mes principes. Je... » Donc, même pas si elle est nécessaire pour mon projet, je ne la ferai pas. Et il a mis, et Sartre, il a mis ça dans ses pièces de théâtre, il a mis ça dans des projets de scénario, d'écriture, etc. C'était un truc qui le... Il réfléchissait à ça, ça le préoccupait, quoi, cette idée. Est-ce qu'on choisit de faire des choses contre notre gré pour obtenir quelque chose qui est vraiment un projet important? Ou est-ce que, non, on ne fera jamais la moindre action qui soit contre... Tu vois, c'est des choix. Et tu peux les respecter tous les deux, parce que finalement, selon les circonstances, oui, il y en a un qui va effectivement aboutir à un progrès. Tu peux les respecter. Enfin, moi, en tout cas, je les respecte tous les deux. Et évidemment, je ne te dis pas à faire n'importe quelle action, hein, mais il a tué personne lui-même, quoi. Ni aider personne à tuer. Voilà, voilà la réponse. Voilà la réponse qu'on peut faire, je trouve, à partir de son œuvre, quoi. À partir de son œuvre.
On revient sur le mot révolution. Bon, on emploie le mot révolution pour la révolution russe, mais pour moi, c'est un truc purement idéologique. Je veux dire, ils avaient une population qui était paysanne. Ils ont voulu appliquer le raisonnement marxiste, c'est-à-dire une philosophie où il fallait qu'il y ait une industrialisation et des ouvriers. Et donc, ils ont tout fait pour aller tout ça. Et moi, je n'appelle pas ça révolution, parce qu'une révolution qui commence par éliminer la plupart de ses opposants qui sont à sa gauche ou qui les critiquent, ce n'est pas les contre-révolutionnaires qu'ils ont éliminés au début. Hein, c'est, je veux dire, pour moi, ce n'est pas une révolution, c'est une prise de pouvoir par une clique, qui s'est transformée ensuite en bureaucratie, qui a essayé d'appliquer un programme idéologique, et qui a tourné à la catastrophe que l'on a connue et qu'encore on n'arrive même pas à évaluer. Si, on évalue, parce que vu comment se comporte la société russe actuellement, il a fallu que la terreur elle soit bien présente dans cette société-là pendant des années pour que là, il n'y ait presque pas de réaction à leur agissement par rapport à l'Ukraine. Voilà, c'est donc...
La terreur était déjà là sous le tsar. Hein,
mais on aurait pu penser, qu'une révolution allait sortir de cette logique de terreur.
La réflexion qu'a eue Sartre sur le processus des mouvements, hein, le groupe, la cellule, etc., et à un moment donné, la possibilité... d'un retour en arrière avec l'institutionnalisation et avec la révolution russe, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu effectivement arrêt complet du processus révolutionnaire par la mise en place d'un système politique qui a rompu complètement avec l'émergence du processus révolutionnaire. Il y a eu processus révolutionnaire, mais qui a été institutionnalisé dans une dictature stalinienne, bon, voilà, pour dire les choses très brièvement. Je pense que Sartre il nous informe sur ce processus qui fait que, et c'est ça que je retiens, moi, et comment se comporter, que faire pour éviter justement cette dernière étape.
Oui, absolument, hein. C'est vraiment dire... pointer comment se font les déviations pour les éviter, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on pouvait dire c'était déjà, dès le début, enfin, même il en fait lui-même aussi la remarque, hein, que dès le début, il n'y avait probablement pas assez d'homogénéité, ni les circonstances n'étaient pas favorables, n'étaient pas du tout données pour pouvoir faire ce genre de changement radical. Oui, bien sûr. Ce qui est sans doute une bonne observation. Mais bon, alors, l'intérêt, c'est d'essayer à partir de là, de voir comment faire autrement, quoi. C'est, en gros, c'est quand même ça l'intérêt. Mais de faire quelque chose.
De façon possible à réinventer. Oui.
Je te pose la question. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que parce que Sartre, c'est la conclusion qu'il tire aussi, c'est que derrière le mot révolution, c'est bien souvent, ça se termine bien souvent soit en copie de ce qu'il y avait avant, soit en pire. Donc peut-être qu'il faut plutôt réfléchir au processus darwinien de l'évolution, c'est-à-dire avancer par étapes et tout ça et tout. Parce que si la révolution qui crée de l'espoir, elle ramène au départ...
On a jamais dit que c'était une loi.
Il n'y a pas de loi de l'histoire. Hein, donc, il n'y a pas de fatalité au fait que toute révolution doive revenir ou bien à la terreur ou bien au point de départ. Aucune fatalité. Et ce n'est pas en ayant deux ou trois exemples dans l'histoire qu'on peut déjà généraliser à une toute nécessité. Par ailleurs aussi, bon, ok, qu'est-ce que tu appelles révolution ? Est-ce que c'est seulement une insurrection violente qui abat physiquement le pouvoir en place ? Ou bien est-ce que c'est un changement radical de structure ? Moi, c'est ça que j'appelle une révolution. C'est un changement radical de la structure économique et politique d'un pays. Donc, on peut faire effectivement progressivement une révolution. Du moment qu'à un moment, on arrive vraiment à avoir complètement changé radicalement les structures. Mais c'est ça qui est important, c'est d'avoir changé radicalement. Après, en principe, on pourrait y arriver progressivement, sauf que le problème, c'est que justement, il y a toutes ces interactions, il y a tous ces conditionnements réciproques qui font que, en fin de compte, tu te rends compte que si tu veux abattre cette partie, tu dois abattre aussi celle-là, et celle-là, et celle-là, et qu'en fin de compte, quand même, tu dois tout mettre en question en même temps. Mais on pourrait faire autrement. Il y a plein de manières d'autres de faire. Ok. Ben, je ne vous dis pas à la semaine prochaine. Mais on va certainement refaire un cycle, donc vous serez bien sûr avertis.
Merci.